France Culture.
Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Bonjour à toutes et à tous. Deuxième émission consacrée à l'évolution de la loi sur la fin de vie, une promesse de campagne du candidat Macron. 18 mois après l'avis du Comité consultatif national d'éthique ouvrant la voie à une aide active à mourir strictement encadrée, un an après la conclusion des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le président de la République avait dévoilé le 10 mars dernier les contours d'un projet de loi sur une aide à mourir qui devait permettre à certains patients, selon des conditions strictes, de recevoir une substance létale. Ce projet a été présenté le 10 avril en Conseil des ministres, articulé autour de trois grands axes, l'aide à mourir, les soins palliatifs et l'accompagnement, le droit des patients et de leurs aidants. Les débats s'ouvraient à l'Assemblée nationale le 27 avril avec une commission spéciale et le 17 mai, le texte était approuvé à main levée par cette commission. L'examen du texte en première lecture commençait le 27 mai pour s'interrompre le 9 juin avec la dissolution de l'Assemblée. Aujourd'hui, où en est-on ? La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a demandé au gouvernement que ce texte soit examiné à partir du 3 février, comme s'y était engagé le précédent gouvernement. Cette date sera-t-elle respectée ? Quel texte sera présenté ? Pourquoi tant de discussions autour de cette loi ? La semaine dernière, je vous expliquais mon choix de consacrer deux émissions à ce sujet. Le principe de l'émission étant de n'avoir qu'un invité, je ne pouvais, par honnêteté, choisir un défenseur ou un opposant à cette nouvelle loi, ce d'autant que je me suis engagée personnellement à faire changer cette loi. Après Olivier Falorni, rapporteur général du projet de loi lors de la précédente législature, aujourd'hui, c'est le professeur Régis Aubry qui est mon invité. Régis Aubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin en soins palliatifs au pôle autonomie handicap du CHU de Besançon, membre du comité consultatif national et d'éthique, co-initiateur de la stratégie décennale qui a inspiré le chapitre du projet de loi consacré à ces soins, et vous dirigez également un jeune institut des vulnérabilités liées à la santé en Franche-Comté. Votre dernier ouvrage, Penser la fin de vie, interroger la mort pour chercher un sens à sa vie, c'est aux éditions Le Cavalier Bleu. C'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis très longtemps. Vous avez notamment été chargé en 2006 du plan palliatif du plan national de développement des soins palliatifs. D'où vous vient cette motivation ? C'est personnel, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire professionnelle avec le début de votre carrière avec les années SIDA, c'est quoi ?
Oui, c'est à la croisée de ces réalités, des questions personnelles qui nous mettent face à la question de la mort et de la finitude. Et puis j'avoue que au plan personnel, la rencontre du SIDA m'a mis devant le fait accompli que la médecine ne sait pas grand-chose. En l'occurrence, on ne savait pas traiter et on ne savait même pas soulager des douleurs extrêmes que présentaient les patients.
On comprend donc cet engagement dans la lutte contre la douleur, dans la lutte pour l'humanisation de cette fin de vie. C'était les soins palliatifs, le développement de ces soins palliatifs, c'était un des éléments essentiels ?
Oui, parce que à l'époque, l'époque SIDA, les soins palliatifs débutaient et j'avoue que la médecine tenait à très grande distance les questions de fin de vie. On était à l'époque dans un déni littéralement de la finitude humaine. Il faut reconnaître aussi que notre société s'était tournée vers la médecine pour essayer de résoudre ce problème de la finitude, en quelque sorte, illusion. Illusion, bien entendu, hein. Et il a fallu ce mouvement des soins palliatifs à l'époque, dont le militantisme était justifié à l'époque, pour que l'on regarde la question de la fin de vie, la question des souffrances qui précèdent ou accompagnent cette fin de vie comme quelque chose d'essentiel et un indicateur de la dimension humaine et des solidarités dans notre société.
Vous parlez de ça au passé, on a quand même l'impression, quand on voit les autres pays qui nous entourent, dont certains qui nous sont proches, hein, comme par exemple l'Espagne, qui ont légiféré sur cette question, que ça reste malgré tout un sujet qu'on a du mal à aborder dans notre pays.
Alors, moi je crois qu'on aura toujours du mal à aborder la question de la fin de la vie, et plus encore celle de la mort, tout simplement parce que ça ne peut pas être une expérience. Personne n'en est revenu pour en témoigner, et je pense que c'est ce qui fait la difficulté d'appréhender cette question. Il y a peut-être une dimension, ou une question un peu particulière dans notre pays à aborder cela, c'est que, comme je vous le disais, on a beaucoup cru que la médecine allait résoudre tout. Probablement, il y a une dimension d'un déni collectif autour de cette réalité. Je crois que c'est assez étrange, hein, de parler de la mort dans une société, c'est parler de la mort en général, mais la mort particulière et la relativité de l'existence. C'est un sujet philosophique éminemment essentiel dans les périodes de crise, me semble-t-il.
Il y a deux lois qui ont été votées en France, on les rappelle, hein, la loi Leonetti de 2005 qui dispose que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable, et la loi Claeys-Leonetti de 2016 qui autorise l'administration à la demande du patient et jusqu'au décès de ce qu'on appelle la sédation profonde et continue si le patient est atteint d'une infection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme. Alors, on a beaucoup critiqué cette sédation profonde et continue, et notamment ceux qui... se battent pour l'évolution de la loi en disant que les patients terminaient leur vie en mourant de faim et de soif. C'est quelque chose d'important, parce que c'est une image du coup que l'on a. C'est une réalité en tant que médecin des soins palliatifs ?
Non, je crois réellement qu'il y a une place pour la sédation profonde et continue. Je crois que c'est une avancée dans le cadre de la loi de 2016. C'est un outil, parce que je le vois comme ça, qui est probablement adapté à ce pourquoi il a été créé, je le rappelle, hein, des situations où la personne est en toute fin de vie. On parle de pronostic à court terme.
C'est quelques jours.
Quelques jours. Pour essayer de répondre à des souffrances qu'on pourrait qualifier de réfractaires ou à une volonté de la personne de ne pas être consciente. Donc, il y a une place probablement pour cela, mais là aussi, il faut rester modeste. Avons-nous démontré que sous sédation profonde et continue, cette souffrance parfois existentielle disparaissait? Je crois qu'il faut rester un peu humble pour ne pas dire oui, c'est une réponse absolue à cette question. Mais il y a une place pour la sédation profonde et continue. Si elle est bien utilisée, elle répond, à mon avis, à des situations, assez peu nombreuses, mais des situations de souffrance des personnes.
Mais bien utilisée, déjà, est-ce qu'elle est correctement appliquée? Est-ce qu'elle est suffisamment connue, notamment des patients, et correctement appliquée? On sait qu'il y a des médecins de soins palliatifs qui, par leur éthique, leur conviction religieuse, refusent d'entendre une demande de soins palliatifs et décident, eux, de quand la fin de vie n'est plus tolérable, sans écouter la demande du patient. On a quand même l'impression qu'elle n'est pas suffisamment bien appliquée, cette sédation profonde et continue, qui résoudrait, il faut le dire quand même, avec les soins palliatifs, 95% des patients, la fin de vie des patients.
Oui. Ah ben, je pense que vous avez raison. Cette loi, comme les précédentes, met beaucoup de temps à être intégrée, appliquée. On peut avoir une forme de réticence de nature morale à cette question de la sédation profonde et continue. Enfin, une réticence morale ne s'oppose pas à l'obligation d'appliquer le droit, me semble-t-il. Et puis, je reviens sur cette exigence de modestie qu'il faut avoir vis-à-vis des souffrances en fin de vie. Je trouve quand même que se positionner de façon binaire en pour ou contre, que ça soit autour de la sédation, que ça soit pour une évolution éventuelle du droit, c'est être bien sûr de soi, me semble-t-il. Je crois que l'humilité s'impose pour aborder les questions relatives à la fin de vie, à la toute fin de vie, me semble-t-il.
Justement, on va parler bien évidemment de soins palliatifs et de cette question de fin de vie, mais d'aide active à mourir. Mais ce sujet nécessite clairement de la recherche, et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui.
Oui, alors, je milite depuis très longtemps pour le développement de la recherche sur un sujet qui fait très souvent débat, un débat tournant parfois au vinaigre, littéralement dans des oppositions qui sont opposées. Que savons-nous sur les questions de la fin de vie? Que savons-nous de ce qu'éprouvent les personnes, que savons-nous de ce qu'est, par exemple, la souffrance qu'on appelle existentielle? Mais nous savons peu de choses. Nous savons peu de choses parce que il y a très peu de données ou de production de savoir autour de tout cela. C'est pourquoi, avec la stratégie décennale pour le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement d'une part, et grâce à l'agence de programme de recherche présidée par le professeur Franck Mouton, nous avons la chance d'avoir un programme de recherche financée, qui va permettre de créer ce qu'on appelle des consortiums de recherche mêlant des philosophes, des sociologues, des médecins, pour appréhender ces questions de la souffrance humaine, pour appréhender la notion des parcours que traversent les personnes et la capacité à anticiper ce que l'on sait pouvoir advenir. Il y a un besoin important de recherche. La France est en retard sur ces questions, très clairement, et nous espérons pouvoir contribuer à compenser ce retard et apporter des éclairages là où il y a débat, me semble-t-il.
Si cette loi était la loi Leonetti, bien connue, bien appliquée, Claeys-Leonetti, vous êtes d'accord que ça résout pratiquement toutes les questions des patients, mais qu'il reste des patients qui sont qui ne répondent pas à cette loi, dont la fin de vie ne répond pas à cette loi.
Oui, oui, oui. Je crois réellement que tous les efforts qui ont été faits quand même depuis 30 ans pour développer les soins palliatifs, dans la lutte contre la douleur, jusqu'à la question de la sédation et en même temps la poussée des droits des personnes malades, tout cela aboutit à ce qu'aujourd'hui, si la loi est correctement appliquée et si les soins palliatifs étaient bien développés, ce qui n'est pas le cas, nous en reparlerons peut-être un peu, on répond à la très très grande majorité des situations, mais pas toutes. Et c'est sur ce dernier point qu'il faut à la fois interroger la pertinence et la possibilité d'une évolution du droit et à la fois l'exigence corrélative de développer les soins palliatifs pour éviter qu'on ait recours à l'aide active à mourir par défaut de soins palliatifs, ce qui serait inentendable.
Eh bien, on parle de ces soins palliatifs immédiatement. Carnet de santé consacré à la fin de vie avec aujourd'hui le professeur Régis Aubry, médecin en soins palliatifs au pôle autonomie handicap du CHU de Besançon, membre du comité consultatif national d'éthique. Deux chiffres sur les soins palliatifs à l'hôpital, en EHPAD ou à domicile, pour mesurer le travail à faire. 81% des Français souhaitent mourir à domicile, un quart y parvient. Et près de 300 000 personnes auraient besoin de ces soins chaque année, à peu près 100 000 en bénéficient. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller multiplier les unités de soins palliatifs, les lits de soins palliatifs, les soignants dédiés à ces soins, mieux les former, qu'il y ait plus de soins palliatifs à domicile. C'est quoi l'idée? La nécessité?
La nécessité, c'est de développer ce qu'on a appelé une culture palliative intégrée à la pratique de l'ensemble des professionnels de santé. Puis j'irai même plus loin, une culture palliative dans notre société. C'est-à-dire qu'on puisse appréhender la question de la mort, pas uniquement au travers du prisme de la médecine. Parce que du coup, c'est une des limites, à mon avis, des soins palliatifs, c'est qu'ils consacrent une forme de médicalisation de la fin de vie, dont je dis qu'elle est utile, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et donc, je crois au développement des structures de soins palliatifs, mais enfin, nous n'avons pas les moyens de cette ambition. S'il fallait développer des unités de soins palliatifs autant qu'il y a de décès, nous y passerions le budget de l'assurance maladie, me semble-t-il. Je crois beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, à la recherche, et je crois beaucoup à un autre levier qu'il faut actionner, qui est celui de la formation des professionnels de santé, pour appréhender cette question de la finitude humaine, cette question de la culture du doute, cette question qui fait que la médecine peut décider aujourd'hui de ne pas faire alors qu'elle sait faire, pour ne pas engendrer des situations de fin de vie épouvantables, comme on en voit ici ou là.
Il y a deux choses importantes, notamment dans cette projet de loi. Une nouvelle catégorie d'établissements médico-sociaux dénommée maisons d'accompagnement, qui est créée, en gros, qui serait des structures entre le domicile et l'hôpital, qui permettraient de moins mourir à l'hôpital, surtout quand on ne le veut pas.
Oui, parce qu'il faut que nous soyons conscients qu'aujourd'hui, l'idéal, si tant est qu'on puisse parler comme ça, du domicile n'est pas atteignable. Les réalités pragmatiques du maintien à domicile, les difficultés du maintien à domicile, les insuffisances en termes de politique du maintien à domicile, la disparition quand même de la culture familiale qui existait il y a encore quelques décennies font que le domicile...
Mais les aidants aussi qui peuvent être épuisés.
L'épuisement des aidants, tout ceci fait que le maintien à domicile, même s'il est souhaité, n'est pas toujours possible. Aujourd'hui, l'alternative au maintien à domicile, c'est l'hôpital. Et l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il sait faire, il médicalise. Or, il y a un espace que devraient occuper ces maisons dites de fin de vie ou d'accompagnement. Ce sont des structures qui permettraient l'équivalent du maintien à domicile avec du personnel d'accompagnement des personnes en fin de vie, mais aussi de leurs proches, permettant à ces proches de souffler, parce que plus la médecine progresse, plus elle fabrique des situations complexes de fin de vie, des situations lourdes et qui pèsent en général sur les épaules des proches.
Et puis, autre innovation, le projet de loi rénove l'approche de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie en intégrant la notion de soins palliatifs dans celle de soins d'accompagnement. C'est plus large, ça intègre autre chose,
oui, pas uniquement la prise en charge de la douleur. Ce terme a fait encore débat, mais au-delà du terme, c'est ce qu'il signifie qui est important, c'est-à-dire qu'on ne veut pas limiter les soins palliatifs à la toute fin de vie. Dans l'esprit de la stratégie décennale, et je pense d'ailleurs des acteurs de soins palliatifs, les soins palliatifs, ça commence très très en amont. C'est-à-dire quand quelqu'un entre dans une maladie grave, potentiellement mortelle, il a besoin qu'on l'accompagne. Il a besoin de ne pas être seul. Il a besoin qu'on soulage les symptômes. Tout cela fait que, pour ce qui concerne l'accompagnement, on voit qu'on n'est pas forcément dans le champ de la médecine, mais dans le champ des solidarités sociales. Il faut que nous développions une culture palliative élargie, plus précoce et plus large.
Et un mot sur le financement. Le projet prévoit d'augmenter peu à peu les dépenses publiques pour atteindre 2,7 milliards d'euros annuels contre 1,6 aujourd'hui. On devrait y arriver en 2034. Ça vous paraît suffisant? Ça a été très critiqué.
Oui, enfin, je trouve que dans la période de pénurie et de contraintes budgétaires que nous traversons, avoir un budget qui double n'est quand même pas tout à fait anodin, me semble-t-il, surtout si on l'utilise bien, si je peux me permettre, et surtout si on se donne les moyens d'évaluer l'impact de l'utilisation de ce budget et des politiques en matière de soins palliatifs, ce que nous avons montré que nous ne savions pas faire. Nous savons faire des lois, créer des programmes, mais nous avons beaucoup de mal à évaluer l'impact qu'ils ont. Et dans cette stratégie décennale qui ferait l'objet de ce financement qui était approuvé en Conseil des ministres à une époque antépénultième, c'est-à-dire il y a quelques mois, nous espérons quand même que ce budget pourrait être un investissement qui permettrait un développement plus cohérent des soins palliatifs et de l'accompagnement.
On l'a dit, les soins palliatifs de qualité ne peuvent pas résoudre toutes les souffrances des patients, notamment quand leur pronostic vital n'est pas engagé à court terme, ce qui est le cas de patients atteints de pathologies neurodégénératives, mais aussi de patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme qui les ont laissés totalement dépendants dans une vie dont ils ne veulent plus mais qui peut durer. On parle tout de suite de cette aide active à mourir.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancausse.
Deuxième volet donc de notre carnet de santé consacré à la fin de vie, après avoir entendu la semaine dernière l'avis d'Olivier Falorni, rapporteur général du projet de loi lors de la précédente législature. Nous écoutons celui du professeur Régis Aubry, médecin en soins palliatifs, membre du Comité consultatif national d'éthique. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost avec Élise Leu à la technique et Ruben Carmazine à la vidéo. Il y a eu donc l'avis du Comité consultatif national d'éthique le 13 septembre 2022, un avis nuancé, pas globalement accepté par tous les membres de ce comité, mais qui acceptait pour la première fois la possibilité d'une aide active à mourir. Il y a eu ensuite la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a été vraiment un modèle de démocratie et qui s'est majoritairement prononcée pour une évolution du droit vers une aide active à mourir. Alors dans le texte de loi, présenté le 10 avril, je le disais, 2024 en Conseil des ministres, il est dit dans l'article 8 que l'administration de la substance légale est effectuée par la personne elle-même. Lorsque celle-ci n'est pas en mesure physique d'y procéder physiquement, l'administration est réalisée à sa demande soit par le médecin, soit par l'infirmier présent. Il y avait avant une personne volontaire, ça a été retiré du texte. Déjà là, on voit bien que ni le mot euthanasie ni le mot suicide assisté ne sont mentionnés. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour vous?
Pour moi, non. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, je trouve que l'euphémisation n'est pas de mise lorsqu'on parle de choses aussi graves. J'entends bien que la difficulté qu'avait éprouvée d'ailleurs Madame Le Bodo, l'ancienne ministre déléguée à cette question-là, c'était le poids des mots. Le mot suicide, par exemple, peut rencontrer générer un vrai questionnement au moment même où la France essaie de lutter contre un taux de suicide chez les personnes âgées, chez les adolescents. On ouvrirait la possibilité d'une assistance au suicide dans certains cas. J'entends bien cela, mais on n'a pas trouvé de mots. Et l'euphémisation qui parle d'aide à mourir englobe tout et son contraire. Et j'avoue que personnellement, je pense qu'il faut
Mettre des mots,
mais surtout bien expliciter le sens qu'ont ces mots que l'on met.
Alors justement, vous insistez beaucoup sur cette grande différence entre assistance au suicide et euthanasie. Expliquez-moi.
Oui, alors, l'assistance au suicide consiste à rendre possible l'accès à un produit létal que prend, ou pas, et c'est dans le « ou pas » que se trouve la nuance, la personne qui l'a demandé et dont on estime que sa demande d'aide au suicide, sa demande d'aide active à mourir, correspond à une volonté. Je me permets de faire une petite incise parce qu'il y a la très grande majorité des demandes ne correspond en fait pas à la volonté de la personne. Il y a des demandes d'aide à mourir qui sont en fait...
Pression de la famille ?
Influencées, oui, ou par la douleur, par exemple.
D'accord.
Ou par une influence extérieure qui peut être parfois des proches, mais parfois une société qui n'aime pas beaucoup les gens malades et les gens malades chronicisés, entre guillemets. On ne peut pas considérer qu'une influence comme celle-ci est acceptable. Donc, admettons que nous parlions de volonté de la personne. Cette volonté peut-elle l'amener à prendre elle-même ou pas un produit létal? J'avoue que dans les réflexions que nous avons eues au Comité national d'éthique en particulier, nous avons été assez impressionnés par l'expérience de l'État de l'Oregon, qui a dépénalisé l'assistance au suicide depuis de très nombreuses années maintenant, qui a été suivi par une dizaine d'États aux États-Unis. Les chiffres et les évaluations, je parlais d'évaluations tout à l'heure, dont se dote cet État, sont assez intéressants et on doit les analyser. Tous les ans, sans manque d'un seul, on montre que les personnes qui demandent l'assistance au suicide, dont la demande correspond à la volonté, pour certaines d'entre elles, bien sûr, s'administrent le produit, et pour d'autres, finalement, ne le prennent pas, alors que leur demande était réitérée. Et nous analysons cela comme une forme d'ambivalence ultime. Elles sont capables de s'administrer ou d'absorber le produit. Ambivalence ultime qu'il faut savoir respecter. Dans mon expérience de médecin, confronté à des demandes d'aide active à mourir, j'étais impressionné de voir comment, plus on avançait, on se rapprochait de la mort, plus il y avait parfois une oscillation autour du désir et de la volonté. Il faut donc savoir respecter cette ambivalence. L'euthanasie, qui est l'autre forme d'aide active à mourir, qui mobilise donc un tiers, et en l'occurrence, on en parlera peut-être, souvent un professionnel de santé et souvent un médecin. Ce tiers n'est pas neutre, il ne peut pas l'être. Et ce tiers peut occulter ce dont je viens de parler, c'est-à-dire cette ambivalence ultime. Pas toujours. L'expérience de nos collègues belges montre que les collègues belges sont capables de ne pas administrer un produit létal lorsque quelqu'un revient sur sa demande.
C'est ça, et certains de vos collègues belges et des patients m'ont effectivement expliqué que la demande acceptée était un vrai soulagement et un vrai réconfort pour le patient, mais que bien souvent ils mouraient de leur propre mort, parce que sachant qu'ils pouvaient bénéficier de ce geste-là, du coup ils terminaient leur vie de manière naturelle. C'est intéressant aussi.
C'est très intéressant, mais d'ailleurs ça rejoint aussi des travaux faits par les évaluateurs dans l'État d'Oregon, qui trouvent que si peu de personnes accèdent finalement à l'aide active à mourir, la très grande majorité de ceux qui sont concernés se sentent soulagés de savoir cette possibilité, qu'ils n'utilisent que très peu, mais qui est une possibilité. C'est donc assez intéressant à analyser.
Mais concernant l'implication des médecins, ceux qui pratiquent l'euthanasie, en tout cas ceux que j'ai entendus, disent qu'ils ne banalisent pas du tout ce geste, que c'est un geste lourd à faire, surtout qu'en général ce sont des médecins traitants qui suivent leurs patients depuis toujours, et justement ils disent que pour eux c'est l'ultime acte de soin qui soigne de la naissance à la mort. Et il y a des patients qui ne souhaitent pas faire ce geste même s'ils le peuvent, et voilà la question que je vous pose, c'est pourquoi refuser à un patient qui le souhaite, qu'un médecin qui l'accepte puisse faire cet ultime geste de soin?
Je crois quand même...
Ça concerne beaucoup, je le dis bien, les médecins traitants qui ont accompagné le patient.
Bien sûr. Bien sûr. Mais je crois que, fort heureusement, mais c'est ce que vous dites, il est nécessaire que administrer un produit létal pose question. C'est le jour où ça ne poserait pas question que ça deviendrait, à mon avis, dramatique. Il y a une ambivalence, une ambiguïté que je peux comprendre, moi, chez des professionnels de santé qui ont été des acteurs de la vie, en quelque sorte, de devenir des acteurs de la mort. On peut le comprendre, c'est d'ailleurs pourquoi le projet de loi, qui sera peut-être une proposition de loi maintenant, rendait possible le fait de ne pas, pour un praticien, pratiquer un acte avec lequel il sera en désaccord moral profond, c'est ce qu'on appelle la clause de conscience, mais l'obligeait à renvoyer le médecin vers une autre personne. C'est quand même quelque chose, à mon sens, qui est particulièrement discutable. Je me permets d'insister parce qu'on a aussi, on ne l'a pas mentionné, mais tout le poids de l'histoire de l'humanité derrière cette question de l'euthanasie. Et je pense que l'implication d'un tiers, de mon point de vue, fort heureusement, doit absolument poser question. Je croise, connaissant des collègues belges et des collègues hollandais, je mesure toute la difficulté que ça représente pour eux. Il n'en reste pas moins nécessaire d'être extrêmement vigilant à la place que peut occuper un tiers, en particulier vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité.
C'est ça, c'est votre crainte, effectivement, que les plus vulnérables soient menacés dans leur existence si ce projet aboutissait?
C'est un risque. C'est un risque dont il faut être, à mon avis, conscient. Il faut pas l'exagérer non plus. Je crois encore à notre capacité d'être intelligent. Mais néanmoins, l'histoire prouve que nous sommes capables de dérives. Et donc, il faut forcément être extrêmement prudent autour de tout cela. En particulier, moi qui ai beaucoup travaillé dans le domaine des soins palliatifs, mais également dans le domaine de la gériatrie, je mesure combien l'altération de la capacité à exprimer sa volonté peut faire l'objet d'une forme d'emprise d'un tiers, ce tiers pourrait être un professionnel de santé ou un proche, et qu'il s'agit à mon avis d'être très prudent dans ce qui nous pourrait nous amener, mais je note qu'aucun pays n'a franchi ce Rubicon, pourrait nous amener à rendre possible l'administration d'un produit létal à quelqu'un qui ne le demande pas.
C'est une question effectivement qui se pose pour la maladie, des maladies type Alzheimer. C'est quand même 1 million de personnes en France. On peut se dire que si des directives anticipées avaient été rédigées évoquant cette question, réclamant le non-acharnement thérapeutique le jour où la personne serait dans l'état qu'elle décrit dans ses directives anticipées, mais elle ne pourrait plus donner un consentement libre et éclairé. C'est un risque qu'il ne faut pas franchir, mais est-ce que c'est pas un risque également que ces malades anticipent leur fin de vie au moment du diagnostic pour pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir ?
Personnellement, ayant vu et ayant suivi des personnes atteintes de troubles cognitifs modérés, puis sévères, mais au temps de la modestie des troubles cognitifs, au temps où il était possible de demander aux personnes d'exprimer leur volonté, j'ai pu mesurer combien les personnes changeaient dans leur vision de ce qu'était leur vie. Quand on anticipe quelque chose, et quand on anticipe en particulier ce qu'il va advenir lorsqu'on est atteint d'une maladie neuroévolutive, on ne le voit pas avec beaucoup d'espoir. On ne le voit pas avec beaucoup de félicité, si je peux dire les choses comme ça. Et quand les gens le vivent, ils évoluent autour de tout cela. Certes, ils peuvent changer l'écriture de leurs directives anticipées qui sont révocables à tout moment, mais il n'en reste pas moins, et dans des travaux auxquels j'avais pu concourir avec l'INED, nous montrions que plus on avançait dans la maladie, plus les gens avaient tendance à changer d'avis. Et quoi qu'il en soit, même sur un plan symbolique, et le symbole de mon point de vue est extrêmement important, administrer un produit létal à quelqu'un qui ne le demande pas, c'est ouvrir une voie qui m'apparaît être dangereuse, compte tenu de ce que nous savons, de ce que nous avons pu faire dans le passé.
Ça, j'entends parfaitement, mais plus globalement sur cette aide active à mourir, euthanasie, exception d'euthanasie suicide assistée, est-ce que votre positionnement a évolué avec toutes ces années que vous avez travaillé en soins palliatifs et au comité d'éthique ?
Ah oui, j'ai beaucoup évolué. Je vous avoue que plus je vieillis, moins je suis sûr de moi. Plus j'avance...
C'est rassurant.
Oui, je ne sais pas si c'est rassurant, mais enfin, je suis assez à l'aise de ne pas être sûr de moi sur des questions comme celle-ci, et j'avoue hésiter encore autour de tout cela. Mais je pense que c'est cela qui doit être au cœur de nos pratiques réflexives. Le débat, les arguments qui s'opposent. Celui qui dit qu'il ne changera jamais d'avis est un homme dangereux sur ces questions comme sur d'autres, me semble-t-il.
Merci infiniment, professeur Régis Aubry. Je rappelle votre dernier livre, « Penser la fin de vie, interroger la mort pour chercher un sens à sa vie », c'est aux éditions Le Cavalier Bleu.